Judaïsme pluriel, une émission de la Radio Juive de Marseille. Réalisée et animée par Roland Bensoussan, avec la participation de René Bensoussan et Kadima.
Chers amis, bonsoir. Roland Bensoussan au micro de Judaïsme Pluriel pour une heure à passer en votre compagnie, comme tous les mercredis soirs de 20h à 21h. Ce soir, le programme de l'année. Avec Judith Martin-Razine.
Bonsoir.
Bonsoir. Avec Jean-Pierre Bundy. Avec Francine Cohen. Et nous parlerons aussi de Martine Yana. Eh bien, chers amis, voilà les fêtes passées, les vœux formulés et les bonnes résolutions prises, comme chaque année depuis des centaines d'années. Et pourtant, les grands problèmes restent entiers dans notre monde. La faim, les épidémies, les guerres sont encore présentes, auxquelles il faut ajouter les catastrophes naturelles, les tsunamis, les ouragans, les cyclones, les tremblements de terre. De génération en génération, nous avons prié Dieu et les saints. Les humains ont inventé d'innombrables outils, des institutions et des systèmes sociaux pour s'organiser, se protéger. Mais les problèmes sont là. La guerre, la violence aveugle. Certes, on meurt moins de faim qu'avant. Je dirais même que dans certaines parties du monde, on peut mourir d'avoir trop mangé. On meurt plus de vieillesse que de maladie. C'est vrai aussi. Et les gens qui se suicident sont plus nombreux que toutes les victimes des soldats, terroristes et criminels réunis, nous dit le professeur Yuval Noah Harari dans son livre « Homo Deus ». Suicide. Alors, la question pour l'humanité est aujourd'hui, qu'allons-nous faire de nous, compte tenu des pouvoirs colossaux que nous confèrent la science, la biotechnologie, la robotique, l'intelligence artificielle? Luc Ferry, philosophe, nous parle dans son livre « La révolution transhumaniste » comment la technomédecine et l'ubérisation du monde vont bouleverser nos vies. Il nous parle donc de ce courant idéologique, le transhumanisme, qui a pour but d'améliorer l'humanité actuelle sur tous les plans, physique, intellectuel, émotionnel et moral, au moyen des progrès, et moi je préfère dire au moyen des avancées des sciences, et en particulier des biotechnologies, je répète, de l'informatique, de la robotique et de l'intelligence artificielle. Il s'agit d'augmenter l'être humain, quelles que soient les méthodes, quitte à le transformer en post-humain, l'interfacer à des ordinateurs et peut-être un jour à des cerveaux artificiels dans lesquels on aurait chargé notre conscience, finalement notre identité. Certes, nous ne sommes pas encore là, mais ce rêve fou des laboratoires secrets avec d'immenses moyens financiers y travaille, selon Luc Ferry, et sans considération éthique, sans limite, jusqu'à nourrir le projet de tuer la mort. Oui, une partie de ce courant transhumaniste ne va pas jusque-là et s'impose une amélioration limitée au respect de notre espèce. Mais l'autre partie de ce courant n'a pas de limite, quitte à utiliser des cellules germinales qui modifieraient sans possibilité de retour en arrière notre espèce. Question alors, est-ce que tout ce que permet la science et la technologie est souhaitable pour l'humain ? Voilà une question majeure à l'heure où les avancées technologiques vont à une vitesse hyperbolique. Peut-être aborderons-nous ce sujet au cours de nos émissions. Pour l'heure, respirons un grand coup et écoutons ce magnifique texte écrit par Florence Artaud, « La paix a le vent en poupe » que va nous lire Judith Martin-Razi.
Mon métier de navigatrice, ma passion, m'a permis de traverser les mers et les océans avec du vent simplement. Une, deux ou trois coques, des voiles et quelques ficelles. J'ai croisé vers de lointains horizons, là où il n'y a plus de frontières, là où il n'y a qu'une race d'hommes, de femmes aussi, celle de marins. À la découverte de nouveaux continents, de nouvelles cultures, abordant les côtes avec une envie de rencontre et de partage avec ces peuples nouveaux, à mes yeux, ces êtres différents avec leur culture, leurs croyances, leurs coutumes, leur passé, leur espérance, leur âme et leur cœur. En mer, sur mon bateau silencieux, je suis en communion avec la nature, la grande bleue et ses habitants. Les éléments, pourtant violents souvent, inspirent le respect et la paix. Le combat avec la nature est dur mais loyal. De retour chez les humains, on n'a plus envie de se battre, mais plutôt de partager. Nous sommes les témoins conscients d'une obligation de vivre avec de vivre dans le respect de la nature et des hommes pour continuer à vivre en paix dans le monde que nous partageons. Après la pluie, le beau temps, dit-on. Après la guerre, la paix. Si tout le monde pouvait se donner la main, c'est peut-être idéaliste, mais néanmoins, l'humanité progresse pas à pas, et moi j'y crois. Alors oui, je suis fière d'être aux côtés des organisateurs des voiles de la paix à Marseille. Les voiles de nos bateaux sont blancs et ressemblent à de grandes ailes comme celles de la colombe, symbole de la paix. J'ai navigué à trois reprises à travers la Méditerranée, portant un message de paix d'une rive à l'autre, arborant le pavillon aux couleurs arc-en-ciel, pitch, pace, paix. J'en étais très fière, même si cela n'a pas servi à grand-chose. Mais il n'y a pas de petites actions. Qui ne rêve pas de paix, d'entente entre les peuples, entre toutes les femmes et les hommes du monde. La paix entre les États nécessite de trouver des solutions calmes et mesurées, en passant par le dialogue. Il y a malheureusement encore bien des situations où tous les efforts des organisations qui œuvrent dans ce sens sont immensément longs et difficiles. Nombreuses personnalités politiques, religieuses, scientifiques, artistiques ou littéraires et tant d'autres ont participé à la construction d'une meilleure entente entre les peuples de cultures si diverses. Ensemble, construisons la paix. Ce texte de Florence Artaud a été écrit évidemment avant son décès, qui était le 9 mars 2015 lors d'un accident d'hélicoptère.
Merci Judith. Vous écoutez l'émission Judaïsme pluriel sur les ondes de la radio juive de Marseille. Et comme à l'accoutumée, pour cette première émission, nous allons vous parler du programme de cette année. La 20e année de judaïsme pluriel. 20 ans, c'est beaucoup, c'est peut-être trop même, pour vous, chers amis. Et il nous faudra peut-être bientôt libérer la place. C'est une question que je me pose, et d'ailleurs deux émissions seront consacrées à ce questionnement et à cet apport éventuel, du moins je l'espère, de cette activité. Puisque j'inviterai le 1er novembre Martine Yana, directrice du Centre FLEG, qui vient d'inaugurer l'université du temps libre du Centre FLEG. Nous parlerons des buts, des motivations, des attentes des gens qui le fréquentent. Une université à thème juif, bien sûr. Puis la semaine suivante, j'inviterai Jean-Pierre Brandu, qui est le fondateur de l'Université populaire Pays d'Aubagne et de l'Étoile. Alors, si je lis la feuille d'annonce de cette université, je lis « Cette naissance de l'université relevait à la fois d'une intuition et d'un pari. L'intuition que nous avons désespérément besoin de comprendre le monde dans lequel nous vivons. Le pari que nous sommes tous capables, absolument tous, de comprendre et d'avancer. » Alors, est-ce qu'on a Jean-Pierre ? Bonsoir Jean-Pierre.
Bonsoir Roland.
Alors d'abord merci d'être sur les ondes avec nous ce soir pour parler de cette université que tu diriges, que tu as créée. Au fait, tu l'as créée quand ?
Elle a été créée en...
Pardon ?
Et elle a été créée en 2014.
2014. Ah ben elle a déjà 3 ans passés. Et pourquoi au bagne ?
Pourquoi au bagne ? Tout simplement parce que j'avais écrit...
Je t'entends plus là. Allô ?
Oh. Oh.
Qu'est-ce qui se passe ? Oui.
Il le capte mal.
Il capte mal. Ah, tu nous entends mal, Jean-Pierre ?
Non, non, moi j'entends parfaitement.
Bon, alors continue, alors vas-y.
Alors je vais recommencer. En 2013, j'avais créé le repère d'Aubagne. Oui. Et j'avais envie de développer des activités d'éducation populaire. Le repère, c'est une réunion tous les mois où on traite d'un sujet de société ou d'actualité. Et j'avais envie d'aller plus...
Ah, ça passe vraiment très 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 mal. Est-ce que tu veux, Jean-Pierre, qu'on essaie de te rappeler ? Je ne sais pas si ça marchera mieux. On essaye ?
Ouais, okay.
Allez, on essaye. Parce que vraiment, on t'entend très très mal. Voilà, on est en train d'essayer d'appeler Jean-Pierre Brandy. Je vous rappelle qu'il a créé l'Université populaire Pays d'Aubagne et de l'Étoile. Et avec quand même une intention forte. L'intuition que nous avons désespérément besoin de comprendre le monde dans lequel nous vivons. Ça, je partage assez bien. Voilà. Alors, est-ce qu'on va l'avoir ? Jean-Pierre, tu es là ?
Je suis de retour.
Bon, alors, on reprend. Donc, tu disais que tu avais créé cette université en 2017, et puis je te laisse la parole.
Non, en 2014. Oui. En 2014. Mm-hmm. Et donc, c'était sous après la création du repère d'Aubagne, oui, où on traite un sujet de société ou d'actualité une fois par mois. J'avais envie d'aller plus loin dans le cadre de l'éducation populaire. Mmh. Et donc, à l'université populaire, on se réunit toutes les semaines et on traite cette année 4 disciplines.
Ah, 4 disciplines, oui. Ouais, lesquelles ?
La philosophie, oui, l'économie, oui, l'histoire, oui, et la sociologie.
Ah d'accord, je ne savais pas pour la sociologie, mais ça fait 4.
Okay. Bah, c'est nouveau cette année.
Ah d'accord.
Mmh. Avec aussi une expérience qui est nouvelle aussi, où on va avoir une soirée autour du cinéma. Comment le cinéma témoigne de l'actualité.
Mmh, très intéressant. Moi, en tout cas, j'ai reçu ton programme et il y a quelques conférences auxquelles je vais assister parce qu'il y a des choses qui m'intéressent bien. Mais alors, une question. Tu parles donc, il fallait choisir, bien entendu, la philosophie, l'économie, l'histoire et la sociologie. Et pourquoi pas d'autres sujets?
Parce que nous ne disposons que de 36 soirées dans l'année. Puisque les cours de l'université populaire ne fonctionnent pas pendant les vacances scolaires.
D'accord.
Donc c'est une fois par semaine et il fallait choisir des disciplines qui nous paraissaient les mieux appropriées à éveiller les citoyens. Donc la philosophie, c'est pour apprendre à penser par soi-même. L'histoire, c'est pour savoir d'où on vient. L'économie, c'est pour savoir dans quel monde on fonctionne. Et la sociologie, c'est pour avoir des notions objectives de ce qui se passe autour de nous. Voilà, c'est des motivations. Mais bon, on aurait pu choisir d'autres disciplines.
Donc,
je trouve que déjà, c'est beaucoup.
Moi, je fais un tout petit calcul. Tu m'as dit 36 séances. Avec 4, ça fait grosso modo 9 séances par discipline, c'est ça?
Oui, c'est à peu près ça. Alors, il y a des disciplines où on fait davantage de choses. En histoire, on aura cette année 5 soirées. En sociologie, on aura 4 soirées. Et le reste est partagé entre l'économie et la philosophie.
D'accord. Et les intervenants sont toujours les mêmes ou tu renouvelles ou...
Il y a des intervenants qui participent depuis le tout début, puis d'autres qui se sont ajoutés, d'autres qui n'ont pas souhaité poursuivre l'aventure ou qui avaient d'autres choses à faire ou qui n'étaient pas adaptés à l'université populaire.
Oui. Quelles sont les attentes
ça se passe en bonne entente lorsque les conférenciers ne sont pas au niveau, ne correspondent pas à ce que l'on attend de ces séances, les choses se passent bien, je les sollicite plus, ou ils me font part de...
Oui, ça passe ou ça passe pas, quoi. Et dis-moi, quelles sont les attentes des gens qui viennent
C'est que je reçois des candidatures spontanées d'intervention.
Ah oui.
Des gens qui me disent moi j'aimerais bien intervenir à l'Université populaire d'Aubagne.
Ah, c'est bien. Et y a beaucoup de monde qui viennent écouter ces conférences. Ça dépend peut-être des disciplines aussi.
C'est très variable. Ça peut aller de 4 personnes à 80 personnes.
Ah.
Alors quand il y a 4 personnes, je suis triste. Quand il y a 80, je suis content. Et j'aimerais qu'il y ait 80 personnes tout le temps. Ouais.
Bon,
en moyenne, il y a 25-30 personnes, ce qui est beaucoup.
Est-ce que tu ressens le fait que ton université amène des choses aux gens?
Alors, deux raisons d'en être satisfait. La première, c'est qu'il y a un noyau qui vient très très régulièrement. C'est un noyau de fidèles qui n'est pas forcément présent à toutes les séances, mais qui vient très régulièrement. Et puis, un autre motif de grande satisfaction, c'est qu'il y a un tiers de Marseillais qui viennent à Aubagne. Et je trouve ça très symptomatique du fait de l'attrait des conférences. C'est ce que tu disais, il y a des conférences qui vont t'intéresser et tu vas faire l'effort de venir jusqu'à Aubagne pour les entendre.
Exactement. Écoute, c'est super. Il faut dire que les Marseillais sont des gens très curieux, très intelligents, et puis se déplacent pour écouter les choses. Bon, les gens d'Aubagne aussi, Bon, alors Jean-Pierre, nous allons bientôt faire une émission. Je crois qu'elle est prévue le 8 novembre, c'est ça. Et donc, lors de cette émission, tu vas pouvoir un petit peu nous parler davantage de toutes ces choses. Et puis aussi, c'est coupé. Tu es là ? Non, on a coupé vraiment ce soir. On n'a pas trop de chance avec le téléphone. Eh bien, tant pis, ça ne fait rien. On avait de toute façon terminé. Jean-Pierre, je te remercie. On va se retrouver le 8 novembre et on aura l'occasion de vraiment rentrer dans les détails de ton université d'été. Je te remercie beaucoup. Sur la neurobiologie, comprendre le cerveau, ses facultés, etc. Avec Christophe Rodot, vous vous souvenez, Christophe Rodot est intervenu deux fois la session dernière et il nous a parlé de la mémoire. Pour commencer cette année, il nous parlera des neuromythes. Ah ah, qu'est-ce que les neuromythes ? Eh bien écoutez, il n'est pas là aujourd'hui, mais je l'ai enregistré. Nous allons écouter tout de suite son enregistrement. Bonsoir Christophe Rodot.
Bonsoir Roland.
Eh bien, je suis ravi de te retrouver sur les ondes de Radio JM pour trois émissions que nous projetons cette année. Trois émissions, j'espère qu'ils vont beaucoup intéresser nos auditeurs. Alors, je rappelle pour nos auditeurs que tu es chercheur en neurosciences. Tu finis très bientôt une thèse sur la mémoire et que tu as une des passions. C'est la vulgarisation, c'est-à-dire porter la connaissance à tout un chacun. D'ailleurs, tu es le rédacteur de Cerveau en argot et de Blog and Brain. Et je conseille d'ailleurs à nos auditeurs d'aller visiter ces deux sites. Il y a beaucoup à apprendre. Tu veux nous en dire trois mots ?
Oui, je te remercie. Donc oui, deux blogs, notamment Cerveau en argot, que j'alimente régulièrement, et j'ai aussi une chronique à la radio sur Radio Grenouille qu'on peut écouter en podcast qui est sur toutes les plateformes et qui se nomme La tête dans le cerveau.
Et comment accède-t-on à cette chronique ?
Sur internet, sur toutes les plateformes de streaming, sur toutes les plateformes de podcast, iTunes, SoundCloud, Deezer, toutes les plateformes.
Radio Grenouille.
Directement. Le nom du podcast, La tête dans le cerveau.
D'accord, ok. Alors, nous avons fait l'an dernier, le 24 mai et le 7 juin, pour être très précis, deux émissions sur la mémoire. Alors, un sujet que tu connais bien, puisque c'est aussi le sujet de ta thèse. Qu'est-ce que c'est que la mémoire ? Comment ça fonctionne ? Etc. Et vous pouvez d'ailleurs, chers auditeurs, les réécouter sur mon site Judaïsme Pluriel à partir de Google. Deux émissions qui, selon nos auditeurs, avaient été d'une richesse et d'une clarté absolument remarquables. Alors, je dois dire que avant, puisque nous enregistrons ce petit bout là, avant d'enregistrer, nous avons eu une conversation passionnante et alors aussi riche et remarquable. Et je t'en remercie.
C'est moi qui t'en
beaucoup.
Remercie.
Alors cette année, donc, on va dire qu'on va faire trois émissions. Et la première, elle est déjà marquée pour le 6 décembre prochain et elle va porter sur les neuromythes. Les neuromythes, qu'est-ce que les neuromythes ?
Les neuromythes, donc, c'est un mot qui est construit à partir de deux autres mots, neuro qui renvoie aux neurosciences et les mythes qui renvoient à la mythologie. Donc de la même façon que on peut avoir une mythologie des fées qui vont être légèrement, plus ou moins légèrement déformées et créer des histoires, mais il existe des histoires créées à partir de découvertes plus ou moins déformées sur les neurosciences. Et que on a tous, à peu près, comme idées qui sont, voilà, des idées reçues, les neuromythes.
Des idées reçues qui ont pour support les sciences avec des guillemets.
Avec des guillemets, effectivement.
Alors, voilà.
Oui, parce que assez souvent, dans le meilleur des cas, c'est juste un fait scientifique, une découverte qui est soit mal comprise, soit mal interprétée, soit légèrement déformée. Mais dans d'autres cas, c'est clairement quelque chose qui est pratiquement créé à partir de rien. C'était juste une idée, c'était juste une phrase et sur laquelle on a construit une montagne et sur laquelle on peut même presque arnaquer des gens, vendre des choses. Et voilà, c'est les neuromythes.
Alors justement, tu dis on a sur lesquels on a construit des choses, etc. Qui crée ces neuromythes ?
Les neuromythes. Alors, c'est pas toujours facile d'identifier d'où vient la source d'un neuromythe. Des fois, on n'arrive pas vraiment à l'identifier. Mais ce qui est sûr, c'est que dans la population, cette idée va être véhiculée, va être transmise, va être légèrement modifiée. Et on pense tous, parce qu'on a entendu cette chose plusieurs fois, de sources à peu près fiables, que c'est vrai. Mais c'est pas vrai du tout. Je vais peut-être te donner
quelques exemples.
Un exemple assez simple, c'est l'idée, là aussi, qui est véhiculée pas mal de fois dans la science-fiction, dans les films, dans les magazines, qu'on n'utilise que 10% de son cerveau.
Ah, mais je croyais que c'était vrai.
Mais non. On utilise 100% de son cerveau. Ouais. Ah bon. Et à côté de ça, on a d'autres aussi neuromythes, comme par exemple l'idée que écouter de la musique classique, ça peut nous rendre plus intelligents. Oui, il y a un neuromythe qui véhicule cette idée que si on fait écouter de la musique classique à des bébés, à des enfants, ben ces enfants vont développer des capacités et notamment une intelligence qui sera supérieure aux autres. Là aussi,
c'est pas vrai. Ouais, c'est faux. Et la bosse des maths.
La bosse des maths. Est-ce que il existe une bosse des maths ? Est-ce que c'est véhiculé par une ancienne théorie scientifique qui est aujourd'hui totalement réfutée, disant que les personnes qui seraient douées en maths auraient une bosse des maths. Mais je pense qu'on aura,
l'occasion de développer,
autre chose. Et ça, c'est encore véhiculé beaucoup. On l'entend, on peut le retrouver dans des manuels de relations humaines, les DRH des fois l'utilisent. On a aussi ça dans les magazines de psychologie. On est soit cerveau droit, soit cerveau gauche. C'est-à-dire qu'on serait soit plutôt calculateur, plutôt réfléchi, ou alors plutôt créatif. Et ce trait de personnalité qui nous caractérise serait dû au fait que une des parties de notre cerveau, le cerveau droit ou le cerveau gauche, serait plus développée chez nous. Et je te dis, ça, c'est vraiment beaucoup utilisé, et c'est vraiment beaucoup faux.
C'est faux, complètement faux.
Ah oui, c'est faux.
Ah oui, tu m'as parlé aussi d'un autre neuromythe, c'est cerveau des hommes et des femmes.
Cerveau des hommes et cerveau des femmes. Question très très intéressante. Est-ce que le cerveau d'un homme et le cerveau d'une femme, c'est la même chose ? Alors, il faut faire attention, pas tomber ni dans un extrême ni dans l'autre. Il y en a certains qui diront « Ah oui, c'est absolument différent. » Et d'autres qui diront « Ah non, c'est identique. » Mais il ne faut pas tomber dans aucun de ces deux extrêmes. C'est un peu différent, un peu identique. Mais là aussi, je pense qu'on pourra avoir le temps de développer tout ça.
Alors, chers amis, si ces sujets vous intéressent, on vous invite donc le 6 décembre à écouter Christophe Rodeau, qui va nous parler de tous ces neuromythes et dans le détail. Et cette fois, ce sera très scientifique. En tout cas, merci Christophe. Et puis donc, on va se retrouver très bientôt.
Merci Roland, à bientôt.
À bientôt. Nous avons fait un voyage en mai dernier, invité par la Mnébrite de Košice en Slovaquie. Košice, c'est la deuxième ville de Slovaquie, après Bratislava. On a fait ce voyage avec Francine Cohen, qui est la vice-présidente du Mnébrite France, et René-Dré Bensoussan. Nous avons pensé que ce que nous avons vu et vécu pouvait vous intéresser. Alors nous projetons une émission avec Francine Cohen et les dirigeants du Mnébrite de Košice. J'ai enregistré Francine Cohen pour annoncer cette émission et en voici les extraits. Bonjour Francine Cohen.
Bonjour Roland Bensoussan.
Je rappelle à nos auditeurs que tu es vice-présidente du Mnébrite France. Tu es intervenue déjà à ce micro de judaïsme pluriel. Rappelle-toi, c'était le 18 mars 2015, si mes souvenirs sont bons.
Mais ils sont exacts,
voilà. On avait fait une émission sur le mnébrite et tu avais parlé du mnébrite. Eh bien, aujourd'hui, nous faisons cette interview enregistrée, parce que lorsqu'on passera sur antenne, tu ne seras plus à Marseille, enregistrée donc, car en principe, fin novembre, nous allons faire une émission sur un voyage que nous avons fait avec René, toi et moi, en Slovaquie. Mais je ne vais pas en dire plus et je vais te laisser raconter.
Oui, nous avons en effet début mai fait un voyage, René, Roland et moi, en Slovaquie. Nous avons été invités, c'est je crois déjà la deuxième fois que René et moi sommes invités par le mnébrite slovaque, par la loge Concordia de Košice, pour faire des conférences. Ils sont très intéressés par l'histoire de la Provence et par l'antisémitisme en France. Nous avons été très bien reçus par nos amis Yana et Thomas Tesser, qui est président de la loge de Košice, et par notre ami Roman, qui est également membre du mnébrite slovaque et qui est traducteur international.
Et c'est un peu grâce à lui qu'on a pu échanger, hein, parce que nous, on ne parle pas la langue.
Parler slovaque,
c'est un peu dur.
Voilà, c'est assez proche du tchèque et du hongrois. Mais pour nous, ce n'est pas évident du tout. Nous avons connu nos amis slovaques par l'intermédiaire du mnébrite, mais également Marseille a été capitale de la culture en 2013 et la ville de Košice a également été capitale de la culture la même année. Donc il y a eu des échanges au niveau municipal, au niveau de la région,
et rappelons
et
que Košice,
au niveau mnébrite.
Rappelons que Košice, c'est la deuxième ville, après Bratislava, qui est la capitale, donc.
En effet, Bratislava est la capitale de la Slovaquie. Vous savez tous que la Slovaquie s'est séparée de la République tchèque, et cette séparation s'est très bien faite. Au niveau juif et au niveau mnébrite, il y a une loge à Prague, et deux loges en Slovaquie qui fonctionnent bien. Nous avons donc été excessivement bien reçus par nos amis slovaques. Certains parmi vous les ont déjà vus puisqu'ils sont venus deux fois à Marseille. Nous avons donc visité la ville. René est intervenu dans le contexte mnébrite, mais aussi communautaire, sur l'histoire du judaïsme en Provence. Et quant à moi, il m'avait demandé d'intervenir sur les problèmes d'antisémitisme en France. Et c'était au lendemain de nos élections présidentielles. Ils étaient très intéressés par savoir ce que Macron ferait pour ou contre les Juifs. Alors la Slovaquie, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, s'est libérée du communisme il y a une vingtaine d'années, peut-être un peu plus maintenant, 30. Et pour les Juifs, c'était quelque chose de très très positif, ce qui n'avait pas avant du temps du communisme de liberté de culte. Maintenant, ils ont une totale liberté de culte. Il y a environ 300 Juifs à Košice, originaires de différents pays, mais essentiellement des pays de l'Est. Ils sont la Slovaquie et membres de l'Union européenne depuis 2004. Ils ne comprennent pas du tout que la Grande-Bretagne veuille quitter l'Europe, parce que pour les Slovaques, c'est vraiment quelque chose de très positif. Les Slovaques sont 5 millions, il y a 5 millions de Slovaques. Ils ont l'euro depuis 2009, et vraiment pour eux, ça a été le début d'une période faste. Les Juifs slovaques sont conscients de leur judaïsme. Nous avons eu l'honneur d'être accueillis par une adjointe au maire, première adjointe au maire de la ville de Košice, un médecin. Nous avons parlé en anglais. Et cette dame qui est profondément a des sentiments très positifs vis-à-vis du judaïsme nous a dit que il y avait des accords importants entre universités, c'est-à-dire entre les universités israéliennes et slovaques, et il y avait environ tous les ans 300 étudiants israéliens qui fréquentaient l'école de vétérinaire de Košice. La ville essaye de faire un maximum pour aider la communauté. Bon, ce ne sont pas des juifs orthodoxes, mais il y a trois ou quatre anciennes synagogues à Košice, et la ville, dans la mesure du possible et de ses moyens, essaye d'aider la communauté à restaurer ces synagogues. Une des synagogues a d'ailleurs été vendue à la ville qui désirait la voir pour en faire un lieu de théâtre ou de concert. Évidemment, ces synagogues sont désacralisées, ont été désacralisées pendant la période du communisme, et je crois qu'il n'y en a qu'une qui sert encore pour les offices. Il n'y a pas un office tous les Shabbats, hein, mais bon.
Et tu te rappelles que ce jour-là, lorsque je crois que c'était le dernier jour d'ailleurs, il s'est passé un événement, on ne va pas dire quoi, on va le garder pour l'émission qu'on va faire, mais un événement absolument notable.
Tout à fait, nous avons, comme a dit Roland, on vous le racontera la prochaine fois, mais nous avons fait des rencontres tout à fait intéressantes le dernier jour de notre visite. Nous sommes restés 3 jours en Slovaquie. Et c'est la Slovaquie est à la pointe de l'industrie, essaye d'avoir des usines dans l'industrie automobile, des pièces détachées, et elle importe beaucoup de voitures. Les voitures viennent de Turquie. Alors la Turquie fabrique les voitures pour les anciens pays de l'Est, ou les anciens pays communistes. Et en Slovaquie, fabrique les pièces détachées. Nous n'avons pas vu de mendiants, bien que le pays ne soit pas, comparé à la France, ne soit pas un pays très riche, mais nous n'avons pas vu de mendiants. Et puis on vous parlera un petit peu la prochaine fois du christianisme en Slovaquie et du problème, puisque ça vous intéressera sûrement, problème des migrants dans la République slovaque.
Bon, eh bien, merci Francine. On va se retrouver bientôt et bien sûr, on aura l'occasion de s'étaler un peu plus, de donner beaucoup de détails sur tout ce qu'on a vu. Et encore merci aux Slovaques qui nous ont reçus de manière extraordinaire.
Merci Roland et à très bientôt.
À très bientôt. Bien d'autres sujets alimenteront nos émissions cette année. Par exemple, le Ternion avec Muriel Toiti. Et bien sûr, on parlera de science et puis de robotique, etc., etc. Mais je ne vais pas vous dire les autres sujets. Il faut bien laisser un peu de surprise. Alors, un autre sujet dont on va parler ce soir, le dernier, sera traité probablement bientôt. Et nous avons le plaisir d'avoir avec nous sur place Judith Martin-Razi. Judith Martin-Razi qui est intervenue il y a un petit moment au début d'émission pour lire le texte de Florence Artaud. Et je vous rappelle que Judith est artiste photographe. Bonsoir Judith.
Bonsoir Roland.
Merci d'être avec nous, c'est un plaisir.
C'est pour moi aussi un plaisir.
Bon. Alors Judith est intervenue plusieurs fois à ce micro, rappelez-vous, je ne peux pas les citer toutes parce qu'il y en avait plusieurs, mais par exemple Rosemary Cauchy ou l'art comme témoignage, tu nous as parlé aussi de la valise mexicaine.
Oui, avec Capa, oui.
Voilà, tu nous as parlé des photographies de la Shoah.
Oui,
il y avait beaucoup de choses. Et puis, il y en a eu d'autres. Alors, tu as fait de nombreuses expositions dans le monde, à New York, à Paris, à Marseille. Et oui. D'ailleurs, bientôt, tu vas en faire une à Marseille.
Oui, la prochaine va avoir lieu au Centre FLEG à partir du 10 février. Oui, sur un travail qui retracera à peu près 10 ans de mon travail artistique.
En fait, on parle aujourd'hui de travail artistique, mais tu as fait aussi, tu as travaillé dans bien d'autres domaines de la photo. D'ailleurs, je vais te poser une question, ça va être la seule pour ce soir, mais une question importante. Quel est le rôle du photographe ?
Alors, le rôle du photographe, justement, il est multiple, parce qu'il n'y a pas qu'un seul photographe. Il y a des photographes de presse, il y a des photographes de mode, il y a des photographes qui ne travaillent que à l'intérieur de studios, il y a des photographes de guerre, il y a des photographes extrêmement multiples. Et chacun a un rôle bien particulier. Et entre autres, la photographie est importante dans la mesure où on a une technique, évidemment, qui est la même à peu près pour tous. Et toutes, parce que nous sommes aussi des femmes, il y a beaucoup de femmes, et nous intervenons sur différentes scènes. Donc lorsqu'on est photoreporter, comme je l'ai été pendant très longtemps, nous sommes donc des journalistes, et nous travaillons directement sur l'événement, sur l'événementiel. Et là, quel que soit le temps, le beau temps, la lumière, les conditions de travail ou le terrain sur lequel on est.
Même le danger peut-être.
Et le danger encore plus lorsqu'on est reporter de guerre. Eh bien, dans ces cas-là, il y a autre chose qui va intervenir et on va dépasser totalement la technique. Et il faut avoir l'œil partout. Et c'est intéressant parce que un photographe de terrain, de presse, c'est un photographe qui va témoigner. Et en général, il va pas forcément chercher le sensationnel, mais il va vraiment chercher ce qui va marquer l'événement. Paris Match disait toujours le poids des mots, le choc des photos. Et c'est important. Et une photo, elle doit savoir parler toute seule. Elle n'a pas forcément besoin de mots derrière. Et c'est important, là, actuellement, on le voit bien avec ce qui se passe en Syrie et en Irak, ces photographes qui n'ont pas pu aller, où il y en a même beaucoup qui y sont allés mais qui sont morts, et depuis, c'est difficile d'envoyer des équipes. On a formé des gens sur place pour que on leur a donné des caméras, on leur a donné des appareils photo. Il faut des témoignages, il faut des photos, absolument. Et pourquoi on les forme, non pas pour simplement la technique, mais lorsqu'on est un photographe de presse, il est important que la photo que l'on va faire ne puisse pas être considérée comme un montage. Il faut que ce soit sans possibilité de dire « ça n'a pas existé, ce sont de fausses photos ». Non. Il faut, voilà. Donc, et c'est en ça où on est des journalistes aussi.
En quoi intervient, pardon, je te coupe, en quoi intervient la pensée politique ou philosophique de la personne qui va faire les photos? Est-ce que tout le monde pourrait faire les mêmes photos?
Alors, j'ai toujours tendance à te dire, d'abord il y a des photographes qui sont dans des poules de presse, et puis il y a des photographes qui sont indépendants. Donc ces photographes-là, en général, ils ont une très très bonne connaissance de géopolitique et savent prévoir un petit peu à quel endroit il va falloir venir, parce que justement ils se disent là il va falloir travailler. Donc ce photographe qui va arriver sur place, il sait exactement, il a sa conscience politique, c'est pas pour rien qu'il va arriver sur un terrain bien particulier, que ce soit par rapport à de la famine, par rapport à une guerre, par rapport à des événements sur une frontière, par rapport, et puis il y a les autres photographes qui sont tout aussi bons d'ailleurs que les précédents, mais qui là sont envoyés par une rédaction avec un rédacteur en chef qui dit tu vas partir et j'en aimerais que tu traites tel sujet. Voilà. Donc on est dans des, à la fois c'est le même travail, mais pas avec forcément la même conscience. Je trouve que celui le photographe indépendant, il va pas aller sur un terrain qu'il a pas envie de faire. Un photographe qui fait partie d'un pool, il peut être envoyé, c'est son boulot, c'est son job, et il peut ne pas avoir forcément. Mais en même temps, il faut pas oublier que comme on est des témoins, il est important que on soit complètement objectif. On n'est pas à avoir une opinion qu'on affiche. Il faut aussi bien montrer. Je pense souvent à des terrains de guerre, les deux côtés. Il faut vraiment. Alors, évidemment, le photographe peut très bien avoir une opinion personnelle, mais en général, il faut pas trop qu'il la montre dans ses photos.
Oui. Et les photos sont très parlantes. On arrive à faire dire beaucoup de choses à partir d'une photo.
Absolument. Et c'est important. Que justement, c'est ce qu'on disait, pas besoin de mots pour faire parler une photo. C'est au photographe de choisir son angle, etc., même s'il va très vite.
Alors, tu as parlé du photographe de guerre beaucoup, du photographe de l'événement. C'est aussi une façon de révéler l'histoire, et c'est un document historique qu'on peut faire.
Ah, totalement. Je t'avais parlé, lorsqu'on avait un petit peu discuté, je t'avais parlé de ces photos qui venaient du camp de Birkenau, ce sont des photos qui ont été prises dans les plus grands risques qui soient. Ensuite, de pouvoir nous les amener à nous, de ces femmes qui sont en train de se déshabiller avant d'aller justement dans les chambres à gaz. Ça, ce sont des documents, mais on a d'autres, des tas de documents. Et je repense toujours à cette photo, mais il y a des, j'ai un trou là tout d'un coup d'exemples à te donner, mais bien entendu que c'est important. Je repense là tout d'un coup à cette photo des Jeux Olympiques en 1936. Ça a quand même un intérêt extraordinaire de ces Américains qui gagnent. C'est les Vichniac qui, lorsqu'il comprend qu'il est à Berlin quand en 1933 arrive Hitler, il comprend parfaitement ce qui va se passer, et il commence à photographier et se dire les shuttles, ils vont disparaître, et il part faire les photos pour qu'il y ait des traces. Oui. C'est ça un photographe. Un photographe, c'est un témoin, c'est un passeur, pas que d'images, c'est un passeur du passé et qui nous retransmet tout ça.
Alors, à côté de ces photos, il y a des photos peut-être plus légères, des photos de famille.
Alors, il y a les photos qu'on fait, évidemment.
Qu'on fait soi-même.
Mais qui sont importantes, oui, parce que elles ont une... De se souvenir de tante Agathe qui est en train de croquer dans un gâteau d'anniversaire, c'est drôlement sympa parce que ça va ramener plein d'images. Les photos de mariage où on revoit toute la famille. Et puis, c'est important. C'est important dans la construction familiale de son passé. Et c'est son passé, c'est aussi une histoire. Et l'histoire d'où on vient et où on va et qui ont été nos ancêtres, c'est ça qui est merveilleux parce oui. qu'on a nos ancêtres
Absolument.
Finalement. Mm-hmm. Et c'est plutôt sympa. Et moi, je sais que je fais très attention pour mes enfants et mes petits-enfants de faire des livres, mm-hmm. Carrément, de toutes les photos et avec des commentaires. Et c'est très drôle mm-hmm. après quand on les relit et quand, entre autres, on est disparu.
Alors, il nous reste 2 minutes pour parler d'un très grand sujet, mais lorsque nous allons faire notre émission, on va vraiment rentrer dans les détails. C'est la photo artistique.
Alors, la photo artistique, ça, c'est encore autre chose. Moi, j'avoue que ça fait très longtemps que je me suis mis à la photo artistique et je ne montrais jamais mon travail. J'avais peur de le montrer. Il a fallu que ce soit des artistes qui me disent, mais montre, il faut pas que tu gardes ça. D'où cette rétrospective qui va avoir lieu au Centre Flegg. Je travaille beaucoup dans l'abstrait, là, au niveau artistique, je suis dans l'abstrait. Et sans importance par rapport à la couleur ou au noir et blanc, c'est pas ça qui m'intéresse. Mais en même temps, je veux que cette image, où moi je vais puiser quelque chose, la personne qui va la voir va s'interroger, avoir une impression, une sensation. Donc,
il nous reste 1 minute, voilà.
Il faut qu'il découvre cette réalité fictive, qui n'est pas forcément la mienne, mais qui sera la sienne.
Bien. Écoute, Judith, je te remercie. Je te remercie d'avoir été là ce soir. Je te remercie de tout ce que tu as dit. Et je te remercie pour cette émission qui va bientôt venir.
Absolument.
Donc, à très bientôt.
À bientôt. Roland.
Chers auditeurs, à la semaine prochaine. Bonsoir.
Bonsoir à tous et à toutes.
C'était Judaïsme Pluriel, une émission de la Radio Juive de Marseille, réalisé et animé par Roland Bensoussan. Votre rendez-vous du mercredi de 20h à 21h. Merci et à bientôt.